Chapitre 2. La buvette du grand wigwam. Quand on avait franchi une porte verrouillée faite de planches arrachées à des caisses d'emballage et à laquelle des morceaux de cuir servaient de gonds, on se trouvait dans une salle longue, basse et enfumée, où la vue et l'odorat étaient aussi désagréablement affectés l'un que l'autre. Il régnait là une infâme odeur de poisson fumé, mêlée à des relents de mauvais alcool et de graisse rance. La fumée des pipes compliquées de celle du foyer s'échappait par un trou pratiqué dans la toiture après avoir saturé toute l'atmosphère de la pièce en formant un brouillard tellement épais qu'on ne se voyait pas à trois pas. Lorsque le regard s'était accoutumé à ces ténèbres, on distinguait, accrochés au mur, des panoplies barbares qui avaient dû appartenir autrefois à quelques chefs redoutés. Il y avait des couronnes de plumes d'aigle, des colliers faits avec les dents du puma ou les griffes de l'ours gris, des arcs, des flèches, des tomahawks mêlés à des mocassins de peau de daim, à des bracelets de graines et de verroterie. On voyait encore des couteaux à scalper, une ou deux carabines d'anciens modèles, des pistolets à pierre, des bois d'élan et de rennes, et tout un arsenal de petits sacs brodés pour mettre le tabac, et de calumets, dont quelques-uns, les plus anciens, étaient formés d'une pierre creusée et emmanchée d'un roseau. En outre de ces panoplies qui recouvraient entièrement la muraille, le mobilier se composait de quelques escabeaux boiteux, de nattes de paille de maïs et d'une étagère qui supportait une douzaine de bouteilles de whisky. Tel était l'étrange repère connu dans le pays sous le nom de buvette du grand wigwam. C'est là que, de deux lieues à la ronde, se réunissaient les Indiens pour converser des choses de leur race et surtout pour boire de l'eau de feu jusqu'à ce qu'ils restassent morts sur la place. La propriétaire de cet établissement unique en son genre était une vieille squaw, aussi sèche, aussi noire et aussi ratatinée qu'une momie. Elle se tenait généralement accroupie devant l'âtre et fumait sans répit une vieille pipe de terre noire qu'on lui connaissait depuis des années. Les familiers de la maison prétendaient même que c'était à cette atmosphère fuligineuse qu'elle devait sa grande longévité, et ils affirmaient qu'elle ne mourrait jamais, conservée qu'elle était par la fumée, à la façon des harengs sourds et des jambons. Les deux filles de cette vénérable matrone, deux grandes créatures à la peau rouge, aux cheveux bleuâtres, au nez plat et aux dents longues, servaient les buveurs et, disait-on, étaient pour beaucoup dans la prospérité de l'établissement. La directrice de la buvette du Grand Wigwam était cousine de Cloum au 8e degré. Celui-ci avait eu l'idée d'emmener ses amis dans ce repère où ils avaient les plus grandes chances de n'être pas découverts. En quittant le lunatique asylum, il s'était donc rendu à Tarmton. Ils y étaient arrivés au petit jour, très fatigués tous les quatre par la nuit blanche qu'ils avaient passée et par toutes les émotions qu'ils avaient dû traverser. Ce n'est qu'une fois sortis de la maison de fous que Lord Buridan s'était aperçu qu'un quatrième pensionnaire de l'établissement s'était attaché à leur suite. « Qu'est-ce que nous allons faire de lui ?» avait demandé Oscar, qui ne reconnaissait nullement dans le nouveau venu le baroque qu'il avait connu chez M. de Maubreuil, tant la captivité et la nature avaient déjà altéré l'œuvre du sculpteur de chair humaine. « Ah, ma foi, je ne sais pas !» avait dit Lord Buridan. Cloum, plus catégorique, avait déclaré qu'il fallait se débarrasser à tout prix de ce génère et, d'un geste impérieux et bref, avait intimé au démon l'ordre de quitter la place au plus vite. C'est alors que le pseudo-baroque s'était jeté aux genoux de Lord Buridan en joignant les mains d'une façon tellement suppliante que l'excentrique avait été profondément apitoyé. Oh, « Ce pauvre diable a l'air inoffensif, » avait-il dit. « Gardons-le provisoirement, plus tard nous verrons. » L'aliéné, comme un chien perdu qui s'attache au pas du premier passant sympathique, s'était mis à marcher docilement derrière ses compagnons. À peu de distance du lunatique asylum, les fugitifs avaient eu la chance de rencontrer un cab, et le cabman s'était figuré, en voyant le déguisement de singe dont Oscar était revêtu, qu'il avait affaire à des gens revenant de quelque mascarade, et les avait laissés monter dans son véhicule sans observation. C'est de cette façon qu'ils avaient gagné le village de Tampton. Mais ils avaient eu la prudence de descendre à quelque distance de la buvette du grand wigwam pour qu'on ne sût pas où ils se rendaient. Cloum et ses amis avaient été chaleureusement accueillis par la vieille squaw et ses filles. Et là, Oscar avait pu se débarrasser de son costume de singe qu'il avait accroché à la muraille où il faisait bonne figure à côté des peaux de grizzly et des panoplies barbares. Le bossu avait revêtu un complet de toile bleue que lui avaient cédé les indiennes et qu'avaient laissé là des peaux rouges qui travaillaient à une carrière du voisinage. « La première chose que nous avons à faire, déclara Lord Buridan, c'est de nous reposer. Nous pouvons demeurer ici toute la journée. Je pense que personne n'aura l'idée de venir nous y chercher. Quand il fera nuit, nous sortirons. » La vieille indienne, mise au courant de cette décision par Cloum, fit passer les quatre amis dans un cabinet obscur attenant à la pièce principale, dont ils n'étaient séparés que par une portière faite d'une couverture de laine de couleur voyante. Les fugitifs se jetèrent sur les nattes dont le logis était meublé, et ne tardèrent pas à tomber dans un profond sommeil. Ce fut Cloum qui se réveilla le premier. Il ronflait encore à poings fermés lorsqu'un singulier picotement derrière la tête l'arracha à ses rêves. C'était une des indiennes qui, suivant une ruse des gens de sa race, le chatouillait doucement au-dessous de l'oreille. Cloum ouvrit les yeux, sans avoir fait le moindre bruit, sans avoir prononcé une parole. Il vit devant lui l'une des deux sœurs qui, mettant un doigt sur ses lèvres, lui faisait signe de regarder avec précaution dans la grande pièce. Le peau rouge écarta doucement la couverture qui tenait lieu de portière. Et, à quelque distance d'un groupe de carriers indiens, occupés à lamper à petits coups une bouteille d'eau de feu, il aperçut Agénor en train de parlementer, non sans force cris et gesticulations, avec la vieille squaw toujours impassible, la pipe aux dents, au coin de son âtre. Tout de suite, il poussa un cri de joie et réveilla Lord Buridan et les autres dormeurs. L'instant après, le Lord excentrique et son ami se jetaient en pleurant dans les bras l'un de l'autre. « Mon cher Agénor, comme je suis heureux de vous retrouver! Et moi qui pleurais votre mort! Moi aussi, je me figurais que vous aviez péri dans le naufrage de la ville de Frisco. Mais maintenant, j'espère que nos ennuis sont terminés !»« Hélas, non !» répliqua Agénor brusquement devenu grave. « Ne perdons pas de temps en effusions inutiles, car vous êtes sérieusement menacé et c'est pour cela que je suis ici. »« Qu'y a-t-il encore ?» demanda Oscar Tournesol. « La maison est cernée par les policemen qui, je ne sais comment, ont appris votre retraite. Dans un quart d'heure, ils seront ici. »« Oh, diable !» murmura Lord Buridan d'un air mécontent. « C'est que je ne tiens nullement, moi, à retourner en prison ou dans une maison de fous. »« Il faut aviser rapidement, » murmura Agénor. « Mais tout d'abord, je vous rends vos papiers que j'ai pu sauver du naufrage. Ils sont dans ce portefeuille où j'ai aussi, en cas de besoin, glissé quelques banknotes. » Pendant ce temps, Cloum parlementait avec les Indiens occupés à boire du whisky. Au bout de quelques minutes, l'un d'entre eux, le plus leste, se hissa à la force du poignet par le trou qui tenait lieu de cheminée et grimpa sur le toit. Il ne tarda pas à redescendre, la mine consternée. « 4 troupes de policemen, » expliqua-t-il en comptant sur ses doigts. « Ils occupent toutes les routes qui aboutissent au Grand Wigwam. »« Nom d'un chien !» s'écria Oscar. « Comment va-t-on faire ?»« Ma foi, je ne vois pas trop, » répliqua Lord Buridan. « Nous ne sommes ni assez nombreux, ni assez bien armés pour faire une trouée. » Il y eut quelques minutes de réelle angoisse. De quelque côté qu'on se tourna, la fuite était impossible. Et les policemen, de minute en minute plus distincts, approchaient avec l'implacable lenteur du destin. Tout à coup, Cloum eut un rire silencieux. Et, du doigt, il montra en face de la porte du wigwam 3 ou 4 wagonnets que les carriers indiens avaient laissés là pendant qu'ils entraient se désaltérer. Tous avaient compris. Il s'agissait simplement pour les évader de se cacher dans l'intérieur des petits véhicules et de passer ainsi au nez et à la barbe des messieurs les policemen. Mais il n'y avait pas une minute à perdre, et, tout d'abord, il fallait décider les carriers à prêter la main à cette évasion. L'éloquence de Cloum, appuyée de quelques dollars, obtint sans peine ce résultat. Agénor serra en hâte la main de ses amis. « Surtout, recommanda-t-il à Lord Buridan, ne manquez pas de m'écrire et de m'indiquer votre retraite. Ah, je n'y manquerai pas, d'autant plus que j'ai des révélations à vous faire. « Oui, dit Oscar, nous savons où est M. Bondona. Lord Buridan a été son compagnon de captivité. Et où est-il ? À l'île des Pendus. Qu'est-ce que c'est que cette île-là ? Ah, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Ma prochaine lettre vous racontera tout cela dans le plus grand détail. » Une dernière poignée de main fut échangée, puis l'excentrique Lord et Oscar s'étendirent au fond du premier wagonnet, pendant que Cloum et leur compagnon, toujours muets et dociles, prenaient place dans le second. Les deux indiennes couvrirent le corps des fugitifs de vieilles couvertures par-dessus lesquelles les carriers jetèrent quelques pelletées de sable, en assez grande quantité pour faire illusion, pas assez pour empêcher l'air de pénétrer. Ces préparatifs terminés, les indiens se mirent à pousser les wagonnets sur les rails, de la nonchalante allure qui leur était habituelle, en marchant à la rencontre de l'escouade que commandait l'honnête Grogman. L'attitude flegmatique des peaux rouges en imposa complètement aux policiers. Il n'eut pas le moindre soupçon. Il continua à marcher du même pas majestueux, à la tête de ses hommes, dans la direction de la buvette du Grand Wigwam. Il arriva au moment même où Agénor en sortait, et, toujours persuadé que le poète était un haut fonctionnaire de police, « Vous les avez vus ?» lui demanda-t-il. « Non, » répondit Agénor en secouant la tête. « Les oiseaux sont envolés. »« Ah, diable ! Tant pis, je vais toujours perquisitionner. Ces peaux rouges ont des ruses diaboliques, et nos fous peuvent être cachés dans quelques caves ou dans quelques soupentes. » Ah oui, c'est cela. Perquisitionnez bien, dit à tout hasard le poète en reprenant le chemin de New York sans que personne ne s'y opposât. Les policiers remuèrent vainement les loques sordides qui composaient le mobilier de la buvette et ne découvrirent rien. Pendant ce temps, les quatre fugitifs étaient arrivés sans encombre jusqu'à la carrière de granit où travaillaient les Indiens et qui se trouvait à 500 mètres de là. Ils s'empressèrent de sortir de leurs incommodes véhicules et remercièrent chaleureusement leur sauveur. La nuit venait à grands pas. Désormais, tout danger avait disparu. Ce fut donc sans se presser, mais cependant en prenant un sentier qui permettait d'éviter la grande route, qu'Oscar Tournesol et ses amis arrivèrent à la gare de Tampton. Là, Lord Buridan, qui avait déjà combiné tout un plan, prit 4 billets de seconde classe à destination de Montréal, car il connaissait parfaitement le Canada où il possédait d'immenses propriétés. Avant même que le train eût quitté la gare, les 4 fugitifs avaient pris place autour de la table du wagon-restaurant et ils étaient en train de combiner un menu substantiel lorsque, tout à coup, Oscar poussa un cri de stupeur et demeura bouche bée, les yeux agrandis, les mains tremblantes, comme s'il venait d'avoir une vision. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Lord Buridan inquiet. Du doigt, Oscar montra sur la route, qui n'était séparée de la voie que par une barrière de bois, une énorme automobile rouge et noire qui venait de stopper. Au volant se tenait, comme auréolé par la clarté éblouissante des phares, un homme à la physionomie énergique et dure. Et, dans l'intérieur, un vieillard à la face glabre, au profil d'oiseau de proie, dont les yeux fascinateurs semblaient scintiller derrière les verres de ses lunettes à branches d'or. « Vous voyez !» dit le bossu avec une indicible émotion. « Le jeune homme qui conduit cet auto, eh bien, c'est le même, j'en suis sûr, qui a participé à l'enlèvement de M. Bondona et qui m'a moi-même à demi assommé d'un coup de crosse. » Mais à ce moment, le train s'ébranla et, quelques minutes plus tard, l'auto mystérieuse, l'auto fantôme, comme l'appelait déjà Oscar, avait disparu, caché par un tournant de la voie.